With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail? C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boule au ventre et démotivation? Si vous êtes dans le deuxième cas et que vous comptez chaque semaine le nombre de jours qui vous séparent du week-end ou des prochaines vacances, je vous recommande plus que jamais le parcours Chance, partenaire d'émotion. Chance est une communauté d'entraide professionnelle pour aider chacun et chacune à trouver sa place dans le monde du travail. La communauté Chance a une méthode unique qui a fait ses preuves. La première étape, c'est celle du bilan de compétences. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs pro et renouer avec ce qui vous anime vraiment, avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute!
Cette semaine, dans Émotion, on a eu envie de vous partager une mini-série qui s'appelle « Les petites phrases blessantes ». Vous voyez cette phrase qu'on a pu vous dire il y a 5 ans, 10 ans, qui a peut-être été lancée de façon anodine, mais que vous avez gardée inconsciemment peut-être dans une petite boîte et qui continue de vous travailler si longtemps après. Que ce soit un reproche lancé par votre père lors d'un dîner de famille, une phrase prononcée par un ami de longue date lors d'une dispute sur un sujet qui vous semblait pourtant sans importance, ou par votre patron lors d'un coup de colère. Ces mots, par leur force, vous ont marqué. Parce qu'ils sont venus appuyer sur une fragilité déjà présente. Parce qu'ils vous ont enfermé, rappelé à l'ordre. Dans les 4 épisodes que vous allez entendre, nous avons eu envie de questionner ce pouvoir de la parole, sa force aussi destructrice que salvatrice, avec des histoires de phrases reçues, mais aussi prononcées. Cette série est issue de notre podcast Fracas et elle a été tournée par Jérôme Massella. Dans ce premier épisode, je vous propose d'écouter 2 histoires de phrases dont le jugement et la violence racontent beaucoup des normes de la société et des stéréotypes qui la construisent. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
Pas hyper à l'aise à l'idée de raconter cette histoire. Je l'ai un peu plus fait ces derniers temps, mais c'est un truc que j'assume moyennement, quoi. Là, ce podcast, je sais pas si je l'enverrai à mes collègues.
Lorsque j'ai commencé à recueillir des récits de phrases blessantes, j'ai été rapidement ramené à mon adolescence, à ma construction, juste avant l'âge adulte. Beaucoup de témoignages que je recueillais émanaient de cette période, celle où l'on rabaisse, où l'on moque, où l'on pique, pour se valoriser, pour se défendre, ou juste pour voir comment la personne réagit. Et à chaque récit, je me suis surpris à me dire « lui aussi, elle aussi a vécu ça », comme si ces paroles assassines étaient des passages obligés. Mais surtout, ces phrases blessantes de l'adolescence me faisaient l'effet de carcan normatif. Elles disaient « voilà ta place, n'en bouge pas ». Et j'ai réalisé que l'adolescence étant l'âge où l'on cherche sa place, où l'on doit s'en faire une, ces phrases-là blessent car elles entravent. Elles rappellent à chacun la place qu'il doit prendre. À un âge où justement, les places se décident. Dans ce premier épisode, Julia et Mélisande m'ont raconté 2 phrases lourdes d'injonction qui les ont marquées. Avec lesquelles elles n'ont pas totalement fait la paix, des phrases prononcées ou reçues à l'heure de leur construction, des phrases qui les ont enfermées. Voici d'abord Julia, qui en a prononcé une, impulsivement, il y a 15 ans, une phrase prononcée à l'âge où l'on doit à la fois s'affirmer avec force et suivre rigoureusement les règles.
En 2003, j'ai 11 ans, je rentre au collège, de mon collège de quartier à Laval. Par rapport au primaire, je rentre dans un monde où les filles sont des femmes. Elles ont des seins, elles ont des soutiens-gorge, elles ont des poils, elles portent même des talons. Et moi, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. J'ai un corps de bébé, je suis un bébé, je suce mon pouce en classe. On en est là, quoi. En primaire, alors ma mère m'achetait mes vêtements. Donc c'était des salopettes, des jupes. Elle aimait bien m'habiller en petite fille. C'était des vêtements d'enfant. Au collège, ma mère continue de m'habiller. Donc c'est terrible parce que j'ai un décalage horrible entre là, en sixième, ce que je porte et ce que portent les filles avec des décolletés, du rose, des talons. Ce qui fait que ça provoque l'envie de m'habiller d'une manière dont j'ai même pas envie. Et en même temps, je ressens que c'est la manière dont je dois m'habiller. Du coup, j'ai envie de m'épiler, alors que j'ai rien à épiler. J'ai envie de porter des soutiens-gorge, alors que j'ai rien à soutenir. Il faut que je porte des strings, alors je commence à acheter des strings avec mon argent de poche, et c'est l'enfer d'ailleurs, cette chose. Ça me plaît parce que je me vois devenir plus grande, plus mature. Voilà, ça me plaît de devenir ça. Et en même temps, aller à la piscine, ça devient compliqué. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais quand on est une fille, on se pose 1000 questions. Au sport, c'est pareil. On observe les corps, les seins, les fesses, les poitrines. Les garçons regardent beaucoup les filles. Et du coup, c'est très nouveau, quoi. On est regardé comme un corps de femme. Pas comme un corps de petite fille. Il y a ceux qui sont un peu harcelés, qui sont les nuls. Et puis, il y a les populaires. Et en gros, l'objectif, c'est d'atteindre les populaires, au mieux d'être dans le ventre mou, mais surtout de ne pas tomber chez les nerds, les intellos, quoi. Et en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que pour s'en sortir, il faut rentrer dans ce jeu-là, il faut suivre ces règles-là, et tous les coups sont permis pour le faire. Il y avait aussi ce truc de l'obsession permanente d'avoir un mec, d'être regardé par les mecs. Et en même temps, si on était un peu trop regardé par les mecs et si on avait un peu trop de mecs, on était une salope. Donc, soit on était prude et donc inintéressante au possible, soit on était une salope. Et il fallait s'en sortir dans ce ventre mou sans tomber dans l'un ou dans l'autre. On découvre cet univers et ces règles du jeu-là en sixième. On hallucine sûrement un peu parce qu'avoir un mec, c'était pas vraiment la priorité en primaire. Et puis, progressivement, quand on arrive en cinquième, que les filles, toutes, on commence à beaucoup en parler, ça devient un peu obsessionnel. Et puis, on critique volontiers la fille facile, la salope, la pute, quoi. C'est un peu l'âge le plus ingrat, quoi, parce que tous les repères sont bousculés. On change d'identité. Un jour, on est avec une copine, chez moi, dans ma maison, et on se met en tête de réaliser un faux film. Ma copine avait un caméscope, et puis ça devait être l'époque de Charlie's Angels, de ce genre de choses, et on décide de se déguiser. Les Charlie's Angels, elles sont très sexy, alors c'est super, on adore. Et en même temps, elles sauvent le monde, alors c'est cool. Et du coup, on prend des vêtements pour se déguiser comme ça et inventer un film. C'est une jupe très courte, des bottes les plus hautes possibles, un débardeur très fin et une queue de cheval haute, du maquillage. Ma mère arrive dans la cuisine et me voit et me dit « Tu fais catin ». Et je lui dis « Mais c'est quoi ?» Catin, c'est comme une prostituée, quoi. Prostituée, je comprends. J'ai dû l'apprendre, plus ou moins comme ça. Mais voilà, elle me dit qu'avec ces vêtements-là, je ressemble à une prostituée, quoi. Ça me renvoyait une image quand même extrêmement négative dans sa bouche, la prostituée, la catin, et que j'avais un peu honte, quoi, du coup, d'être habillée comme ça. Donc on est un jour d'automne, je crois, quelque chose comme ça. et on sort du self avec les copines et on se pose à un endroit juste à côté du self. Et puis on est en cinquième et il y a cette jeune fille, très jeune fille de sixième donc, qui est à côté, qui est pas loin avec sans doute ses copines. Elle a des longs cheveux bruns frisés. Elle est habillée avec une jupe beige, des bottines et je crois une veste en jean ou quelque chose comme ça. Elle est à côté, elle passe et je la regarde et je lui dis « Elle fait pute ta jupe ». Je crois qu'à ce moment-là, les copines rigolent, approuvent, hochent la tête en disant « Bah ouais, carrément, je suis très contente de moi, j'incarne tout ce que le collège m'a appris ». Et par rapport à mes copines, ouais, je suis un peu l'héroïne du jour, là. Cette fille, on la connaît pas, elle passe, elle a rien demandé à personne. Et elle répond très naïvement, elle dit « Ah bon, bah, je savais pas, bah, d'accord ». Et je pense que c'est tout ce qu'elle a trouvé à nous répondre, quoi. Après, j'oublie cet événement, c'est passé, j'y repense plus. Mais je pense que dans mon subconscient, je trouve pas ça très sympa. Depuis quelques années, cette phrase, elle m'est revenue en mémoire et j'ai commencé à y repenser même souvent. Progressivement, j'ai eu une prise de conscience féministe, notamment après MeToo, j'ai commencé à beaucoup me documenter, à lire plein de choses. J'ai découvert la sororité, qui était donc très éloignée de ce que j'ai pu vivre à l'époque. Et étant donné que cette phrase, elle va à l'encontre de tout ce que j'ai découvert depuis et tout ce que je porte, j'y repense constamment avec énormément de culpabilité. En fait, tout est problématique dans cette phrase. Il y a « elle fait pute cette jupe », ça veut dire qu'il y a un jugement du vestimentaire. Ça veut dire que « pute » est une insulte. Ça veut dire qu'il y a une injonction énorme sur comment on doit être et qui on doit être, à quel âge. Ça veut dire qu'il y a un âge pour porter des jupes. Il n'y a rien qui va.
Mais au fond, vous la pensez, cette phrase ?
Non, je n'ai jamais pensé qu'elle faisait pute. C'est sorti parce que j'avais besoin de rectifier ce que moi, j'avais le sentiment de ne plus pouvoir faire. Et que donc, ce n'était pas juste qu'elle... Elle porte cette jupe, alors que moi, je savais qu'on allait mal me regarder, qu'on allait me juger, que j'allais poser problème. On dit ça parce qu'à cet âge-là, on dit n'importe quoi et on dit 40 conneries par jour... qu'on pense pas, qu'on pense qu'ils vont nous rendre plus populaires. Et que finalement, on dit ces choses-là sans réfléchir à leur impact. C'était le truc qu'allait faire, qu'allait rendre intéressant, quoi. En fait, c'est ça, on dit des choses à cet âge-là pour se rendre constamment intéressant. D'en parler, ça me permet d'assumer cette personne que j'ai été. La petite fille méchante de l'époque, je la pardonne parce que je suis capable d'en faire la critique et que je peux observer que je suis quand même devenue quelqu'un de meilleur. Je me dis qu'il y a un tel lot de conneries qui sont dites au collège que si ça se trouve, mais elle s'en souvient pas du tout. Et je me serais tellement rassurée que ça soit le cas. Mais si j'avais l'occasion de lui parler, de la retrouver, je lui dirais « je suis désolée, qu'est-ce que j'ai été bête ?» et je suis navrée.
La raison pour laquelle ça m'a fait sincèrement douter, c'est que c'était un véritable conseil de sa part. C'était pas sexiste, c'était pas méchant, c'était sincère et c'était peut-être ça le pire en fait, le plus douloureux.
Ces phrases assassines peuvent hanter ceux qui les émettent, mais surtout ceux qui les reçoivent. Mélisande, elle, a 30 ans aujourd'hui et elle témoigne d'une phrase blessante de l'autre côté, côté destinataire, côté cible. Une phrase reçue à l'entrée dans la vie adulte, alors qu'elle croyait le temps de ses paroles assassines révolu, que sa place n'était plus à défendre. Mais dans cet âge où se prolongent les doutes, quelques mots prononcés par d'autres risquent encore d'avoir un impact sur vos décisions. Surtout des paroles prononcées par des adultes, avec l'enrobage de la maturité et de la bienveillance, mais qui blessent d'autant plus sournoisement. C'est notre deuxième témoignage qui atteste de la manière dont certaines phrases rappellent à un ordre social, aux places que l'on doit tenir.
Moi, j'ai grandi dans un village à 10 km de Reims et je suis arrivée à Paris après ma prépa, donc j'avais 19 ans. Quand je suis allée aux portes ouvertes pour cette école, on est arrivé avec mes parents, donc c'est à Neuilly. Je porte un jean, un pull bouloché, une paire de baskets type H&M, Zara. C'est vrai que j'avais jamais forcément prêté attention à la façon dont on s'habillait. Et là, je me rends compte que c'est un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu d'image et que j'ai pas les codes, en fait. J'ai vraiment le sentiment de faire plouc. Et quand j'arrive à l'école, il y a un rapport aussi aux autres qui est assez différent. On a une façon de s'adresser aux autres, on est dans la taquinerie. Il faut être un peu solide, il ne faut pas être trop susceptible, il faut avoir beaucoup de répartie. J'apprends que certaines marques existent, Mâche, Sandro, tout ça, voilà, c'est leur quotidien, je ne connais pas. Au gala de l'école, elles ont toutes sorti des robes de soirée, alors que moi j'ai acheté une pauvre robe chez Etam, on ne joue pas du tout dans la même cour. J'apprends, on fait des rallyes. Alors évidemment, moi, en bonne provinciale, je pense au rallye automobile. J'apprends ce qu'est un rallye. C'est une sorte de bal organisé entre gens de bonne famille pour que leurs enfants se rencontrent, apprennent à danser, apprennent les codes de la bonne société et surtout, à l'origine, trouvent l'âme sœur. Ma première année, tout se passe bien. J'évolue un peu aussi personnellement. Je m'émancipe, je vis ma vie de façon complètement autonome. Je coupe le cordon avec mes parents, enfin. Au bout de 2 ans sur Paris, je suis enfin dans ma vie parisienne. Les musées, enfin vraiment, voilà, je vis la vie rêvée quand on est étudiant à Paris. Je vais à des concerts, évidemment, je fais mon footing au parc Monceau, j'arpente les rues de Paris pour prendre des photos, je commencerai à faire des stages justement de photos avec la mairie de Paris, et je suis hyper heureuse. Pour moi, c'est une évidence que je vais trouver un boulot à Paris et que je vais y faire ma vie. Et arrive mon stage de fin d'études. Je vais intégrer un petit institut. Globalement, ils sont 3. Et ils viennent d'être achetés par une autre boîte. Et donc, du coup, on est tous ces 2 boîtes réunies dans un petit appartement réaménagé en open space avec quand même un coin cuisine, une salle de réunion, etc. qui se situe à Étoile. Donc, du coup, je me retrouve assez vite dans un environnement 80% masculin. On a une limite qui n'est pas très claire entre est-ce qu'on est amis ou est-ce qu'on est collègues, parce que bon, bah, eux, ils se font des soirées entre eux, ils s'invitent, ils passent des week-ends ensemble, des vacances ensemble. Ils ont des clients, ils font de l'argent, ils ont d'autres préoccupations. Effectivement, moi, j'ai vraiment une préoccupation de comment je vais payer mon loyer à la fin du mois. Il faut absolument que je trouve ce CDI, donc c'est hyper important pour moi. Si on me propose un CDI, je suis hyper contente. À la fin de mon stage, c'est le PDG de la boîte qui doit m'annoncer s'il m'offre un CDI ou pas. Lui, il a une 50aine d'années et moi, j'ai à peine 20 ans. Il rentre dans le bureau, je suis déjà installée. Il commence à m'expliquer que voilà, le stage s'est très bien passé, qu'ils sont très contents, qu'ils ont pu échanger avec mon maître de stage, que visiblement, je suis quelqu'un de fiable et que je suis un bon profil, mais qu'actuellement, étant donné la situation financière de l'entreprise, le fait qu'ils viennent de fusionner avec cette autre boîte, ils n'ont pas forcément les moyens de me garder. Moi, je ne suis pas spécialement surprise. Je m'étais préparée au fait qu'ils ne me gardent pas forcément. J'ai déjà commencé à regarder des annonces au cas où. Et en fait, ils ne s'arrêtent pas là. Il commence à me parler de moi et à me dire que finalement, pour lui, il était important que je trouve autre chose et que Paris ne me correspondait pas vraiment. C'est du genre, Tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir à Paris, à mon sens. Tu es plus dans l'état d'esprit province. Tu n'es pas assez dans le relationnel. Tu ne fais pas suffisamment travailler ton réseau. Tout ça avec sur un ton assez détaché. Et il me renvoie à un état dans lequel j'étais quand je suis arrivée à Paris, où je me suis posé la question de « mais qu'est-ce que je fais là ?» Mais ça, c'est derrière moi. Et à ce moment-là, vraiment, je ne me pose plus la question. Et pourtant, ça va complètement me chambouler. Je dis « ah oui, bah, peut-être ». J'ai l'impression que voilà, c'est le syndrome de l'imposteur presque. Je sais pas, je me dis que c'est un homme qui a de l'expérience, qui est plus âgé, qui a fait sa carrière à Paris, qui visiblement a réussi. Donc, il doit bien avoir raison quelque part de me dire ça. Et vraiment, je commence sincèrement à remettre tout en question et à douter, à me dire que peut-être il faut que je retourne en province. Mais bon, c'est pas forcément évident non plus, parce que c'est très parisien comme secteur d'activité. Donc, ça voudrait dire potentiellement aussi bah, remettre en question ma carrière dans la com et le marketing. Donc là, j'appelle mes parents, je leur annonce que j'aurai pas de CDI dans l'entreprise et que peut-être, en fait, je vais devoir chercher en province parce qu'on m'a conseillé de ne pas rester à Paris. J'ai mon père au téléphone, il me dit « t'es sûr, vraiment ?» Et puis, comme ils sont pas ultra fans de Paris et qu'ils ont un peu peur, ils seraient capables de m'accueillir les bras ouverts. Donc, ils me disent, évidemment, si tu veux revenir, il n'y a pas de souci. Mais clairement, ce n'est pas ça qu'il faut que j'écoute comme conseil. Et j'en ai parlé à mes amies, et elles me disent très clairement, mais non, absolument pas. Il faut vraiment que tu reprennes confiance en toi. C'est pas du tout, enfin, on n'est pas du tout d'accord avec ce que ce mec te dit. Il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Ça se passe très bien, ça s'est très bien passé ton stage. Tu n'as aucune raison de partir en province. Et finalement, je commence à passer des entretiens, et je passe un entretien notamment à Paris, dans un institut d'études marketing, et on m'offre un CDI. Voilà, je commence en tant que junior dans cette entreprise. Je vais jamais quitter Paris. Je suis en couple avec un enfant, on est installé à Vincennes, et j'ai pas l'intention de bouger. Cette phrase, forcément, elle a visé juste parce que c'était un complexe qui préexistait chez moi. Et quelque part, si ça m'a marqué, si je m'en souviens encore aujourd'hui, c'est parce que ça fait écho à quelque chose, à une faille quelque part chez moi. En reparler avec vous, ça rallume un truc quand même, hein. Ça me fait un peu mal d'y repenser parce que je me souviens de à quel point ça m'avait marqué. Ça m'avait vraiment chamboulé à ce moment-là, donc ça me fait mal d'y repenser. Et en même temps, je suis tellement le cliché de la provinciale arrivée à Paris et devenue 100% parisienne que ça n'a plus aucun sens. Mais ça me fait peur. Rétrospectivement, ça me fait peur parce que je vois le chemin qui aurait pu se dessiner pour moi si j'avais finalement suivi ce conseil. Si j'étais allée en province, ben en fait, voilà... le couple dans lequel je suis aujourd'hui, la fille que j'ai eue récemment, voilà, n'existerait pas et j'aurais certainement pas la même vie et je serais certainement pas aussi heureuse.
Cet épisode de Fracas a été tourné et monté par Jérôme Massella. Bénédicte Schmitt a composé la musique des épisodes et fait la réalisation et le mix. Le générique est de Valentin Fayot. Maureen Wilson, responsable éditoriale, et Marion Girard, responsable de production, ont supervisé ces épisodes. Je suis Charlotte Pudlewski et Fracas est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello@louismedia.com et si vous voulez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club. Il y aura des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe, des masterclass et bien d'autres choses. louismedia.com/club. À très vite.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler du film Rosalie, qui est actuellement au cinéma. Un film réalisé par Stéphanie Di Giusto, qui présente le destin de Rosalie, une jeune femme qui se découvre et s'émancipe dans la France très puritaine de 1870. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Rosalie est une femme à barbe, un trait physique quelque peu particulier, surtout pour les mœurs de l'époque. On vit avec Rosalie sa quête d'amour et de liberté face à une société qui ne l'accepte pas à cause de sa différence. Le film réunit pour la première fois Nadia Tereskevitch et Benoît Maginel, tous les deux très touchants dans cette histoire d'amour complexe, mais très belle. Alors n'attendez plus pour aller voir Rosalie au cinéma dès maintenant et découvrir ce film qui célèbre l'acceptation de soi et des autres. Vous pouvez aussi découvrir l'interview de Nadia Tereskevitch, le personnage principal du film, dans notre dernier épisode de Pépite. À très vite!
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.